On est de retour en onde et je suis en compagnie de Benoît Racette, un sujet plus sérieux, un sujet qui est très important d'ailleurs parce qu'un peu partout au Québec, c'est les élections municipales.
Absolument.
Qui vont avoir lieu le 5 novembre prochain. Benoît Racette, vous travaillez pour l'organisme Execo.
Oui.
Qui travaille pour la défense des droits des personnes avec une déficience physique.
Une déficience motrice même précisément, mais en solidarité,
évidemment.
On défend les droits des personnes en situation de handicap.
Évidemment, oui, tout à fait. Et vous consacrez vos activités sur l'île de Montréal.
Mm-hmm.
Donc aujourd'hui, ben, vous voulez nous parler de l'importance d'aller voter, évidemment, mais avant ça, il y a tout un travail qui implique les citoyens.
Absolument.
Qu'on doit se retrousser les manches, en fait, et faire connaître différents enjeux.
Ben, je suis content que vous le disiez, Kevin, parce que évidemment, on peut prendre de la main un bulletin de vote et la mettre dans l'urne, mais il y a tout un travail à faire avant. Je vous le rappelle à vous qui êtes partout au Québec et même peut-être ailleurs, là, si vous votez au Québec, toutes vos élus peuvent entendre vos demandes durant la période électorale. Et je vous rappelle aussi que si vous êtes dans une municipalité de plus que 15 000 habitants, votre municipalité a comme obligation de produire un plan d'action.
Au sens de la loi, là. C'est...
Exact. Mm-hmm. Donc, de produire un plan d'action pour les personnes handicapées. Donc, ça vaut la peine d'aller voir ce que la ville a dit qu'elle ferait, mm-hmm. vérifier si elle le fait et peut-être même être critique ou proposer qu'il y ait des changements, des améliorations mm-hmm. au plan d'action. Et ça, avant que vous donniez pour vrai votre appui à un élu sur votre territoire.
Et ce fameux plan d'action-là, il consiste à quoi? Est-ce que c'est juste des objectifs que les municipalités doivent se fixer aux périodes électorales? Est-ce que ça suit le cycle électoral
non,
ou pas obligatoirement?
En fait, c'est évidemment avec une loi, la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, puis là, je mets des trois petits points parce qu'elle va plus loin.
Elle est longue.
Elle est longue. On l'appelle intimement la loi EPHQ. En fait, les municipalités ont, depuis cette loi, l'obligation de produire des plans. Puis parfois, ça peut être d'une élection à l'autre, donc sur une période de 4 ans qu'ils mm-hmm. le font. Mais ça peut varier, là. Il y a pas de, je dirais, de... c'est pas pareil partout au Québec.
C'est pas uniforme, tout mm-hmm. à fait. Vous parlez de l'importance d'aller faire entendre ses revendications auprès des élus, mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué ou qui est déconnecté un peu de son milieu municipal, mais que lui, il trouve que c'est difficile pour lui de circuler sur les trottoirs, mm-hmm. disons, en face de chez lui, comment qu'on s'y prend? Est-ce qu'on peut interpeller l'élu par téléphone, par Facebook? Est-ce qu'on se rend directement? Y a-t-il une manière que vous conseillez en particulier?
Moi, je trouve que c'est plein de bonnes idées ce que vous dites, Kevin, parce que d'une part, évidemment, on peut aller dans les débats organiser, on peut faire appel à un organisme ou voir ce qu'un organisme va défendre, mais l'élu va aller vers vous, mmh. le candidat aux élections va aller vers vous, on peut lui dire directement, on peut l'interpeller sur Facebook en ajoutant un A commercial devant son nom, en cherchant comme ça sur Facebook ou même sur Twitter qui est un peu plus accessible, puis ça peut effectivement obliger le mmh. candidat à vous répondre. Évidemment, nous, on travaille aussi à Montréal, mais je tenais d'emblée à vous proposer ce qui est possible de faire partout au Québec.
Mm-hmm.
Peut-être que, Kevin, je ne sais pas si, ce que vous en pensez, on pourrait se demander ce qu'on fait à Montréal parce que c'est un peu plus organisé au sens où il y a plus d'argent d'investi dans les programmes pour les personnes en situation
ouais,
de handicap.
Puis souvent, les militants sont peut-être regroupés de manière un peu plus intensément
ouais.
à Montréal qu'ailleurs puisqu'il y en a plus nécessairement.
C'est ça.
Donc, les revendications sont peut-être plus entendues que, par exemple, à Trois-Rivières ou à Sherbrooke. Moi, je parle par expérience pour habiter à Montréal depuis pas si longtemps que ça.
Oui, c'est ça.
Mais oui, on peut se demander l'état de la situation pour les prochaines élections, puis peut-être depuis les dernières, est-ce que ça a avancé?
Bonne idée. Donc, c'est ce que je proposerais aux gens qui nous écoutent. Bon, à Montréal, pour l'instant, il faut dire qu'on n'est pas sûr encore qui se présentera à la mairie. On sait que Coderre, notre maire actuel, va se représenter, bien sûr. Mm-hmm. Valérie Plante, avec le parti de l'opposition, va concourir contre lui. Mais pour l'instant, on ne sait pas, est-ce que Mme McIntyre, est-ce que...
On ne sait pas encore s'il y a de tierce partie.
Normalement, oui, parce qu'il y en a 9 d'inscrits.
OK. On ne connaît pas l'identité
mais
encore.
C'est pas clair okay. encore quels seront les chefs. Et surtout, il y a une différence entre les élus que vous allez avoir dans votre arrondissement et ceux ou celles qui aspirent à devenir maire.
Mm-hmm. Hein,
c'est 2 coches là, sur votre bulletin
oui.
de vote. Bon, alors, on revient à ce qu'on propose pour ces 2 principaux partis-là. L'équipe Coderre n'a pas encore déposé sa plateforme et non plus annoncé ce qu'elle allait faire pour l'accessibilité universelle. Par contre, Valérie Plante l'a déjà fait. Il y a plusieurs propositions qui sont faites. Puis la différence majeure, c'est que, par exemple, chez Coderre, on identifie le plan d'action dont je vous parlais plus tôt, puis on parle de citoyens à mobilité réduite, alors que chez Projet Montréal, on parle d'accessibilité universelle, donc une idée plus large là, de présenter les choses de manière peut-être plus transversale. Enfin, c'est ce que j'espère.
Ouais, c'est de la sémantique, mais c'est effectivement ce qu'on peut retirer comme, comme conclusion ou analyse des choix des mots. Là.
Mais c'est important que ce soit transversal. Puis je rebondirai, parce que je ne suis pas sûr qu'il nous reste tant de temps que ça,
Allons-y.
Je rebondirai sur votre histoire de Karine qui a tenté d'assister à un show Metallica.
Oui.
Nous, parmi nos demandes qu'on a fait en 2013, je dirais que ce qui est à la base, c'est que l'AU devienne transversal. Puis là, dans le cas qui nous préoccupe, là où une citoyenne a voulu assister à un show sur le parc Jean Drapeau, qui est une installation municipale, elle n'a pas réussi à accéder à une place parce qu'on avait oublié de former probablement la personne qui répond, qui aurait compris qu'elle ne peut pas prendre le métro parce qu'elle est en fauteuil et que le métro n'est pas entièrement accessible, qui aurait eu quelques pratiques qui auraient été promues un peu partout auprès du staff, si on avait pensé que l'AU, ça ne concerne pas juste les centres de loisirs dédiés aux personnes handicapées.
C'est pas juste une toilette aussi sur un site accessible. C'est pas juste d'avoir une toilette accessible sur le site. Là. Mm-hmm. C'est de former le personnel pour guider. Puis c'est justement le cas du problème de Karine dans l'histoire.
Voilà, exactement.
Peut-être en parlant de ce qu'on va demander pour les prochaines élections,
oui.
Est-ce qu'il y a des points forts qui sont soulevés par Execo?
Ben nous, chez Execo, on avait produit une plateforme électorale en 2013 avec 41 revendications. Il y en a à peu près 5 qui ont avancé grâce au travail aussi du Rapplique, d'Altergo, d'Europe MM qui est devenu Défi Montréal et aussi de nos pressions. Mais on veut mettre l'emphase sur quelque chose qui est tellement oublié et qui est central pour les citoyens et citoyennes, l'habitation.
Mm-hmm.
Et on pense à une mesure qui coûte pas si cher que ça, mais qui est fondamentale, qui est celle d'un guichet unique pour informer sur la disponibilité des logements adaptés, accessibles et adaptables sur tout le territoire de Montréal. Donc, c'est une revendication qu'on va pousser fort. Et d'ailleurs, je vais juste vous l'indiquer, le 25 septembre prochain, lors de la dernière séance du conseil municipal, avant les élections, avant la période du public, on va faire un grand rassemblement pour demander ce guichet unique d'information sur les logements, parce que les gens peinent à changer de logement, souvent parce que le premier handicap des personnes handicapés, c'est la pauvreté, et c'est difficile de trouver un logement adéquat, sécuritaire et qui a des prix qu'on est capable
c'est
de payer.
C'est extrêmement difficile. Je peux parler par expérience aussi. Moi, j'ai quand même été chanceux quand j'ai emménagé à Montréal. On m'a quand même référé assez rapidement un loyer qui était possible pour moi d'obtenir selon mon salaire, qui était pas adapté à ma hauteur, par exemple, mais pour lequel je pouvais au moins entrer, qui avait pas de seuil, tu sais.
C'est ça.
Mais après ça, quand vient le temps de déménager, d'aller chercher ces informations-là, sont souvent éparpillées un peu partout dans les différentes fédérations, dans les différentes coopératives. L'idée d'avoir une plateforme centralisée, là, puis qui serait sous la responsabilité de la ville de Montréal, si on peut aller chercher un acquis pendant les prochaines élections,
ça serait vraiment
ça serait moins formidable.
Puis on a tendance à appuyer le site onroule.org, mais évidemment, il faut que la ville s'implique, il faut qu'elle finance et il faut qu'elle s'assure de l'accessibilité universelle de notre infologie. Donc, on vote le 5 novembre prochain, puis si on a envie de revendiquer quelque chose comme un guichet unique pour les logements accessibles, le 25 septembre, à l'Hôtel de Ville, vous pouvez venir. Rendez-vous d'ailleurs sur Facebook, execo.net, ou rejoignez-nous 514-288-3852, poste 228.
Le message est lancé. Allez, citoyens!